J'ai lu cet été, un peu par hasard, deux livres qui relèvent du genre un peu désuet de la géographie, deux récits de vie sainte. Le premier était celui qui ressemblait le plus aux actes d'un procès en canonisation, qui pesait soigneusement le pour et le contre, qui soulevait d'inlassables objections pour y répondre ensuite, qui se montrait le plus réservé sur la question des miracles et qui abordait un peu longuement peut-être la question des amitiés féminines de son prétendant pour mieux vanter au final sa chasteté intacte. C'était une biographie du père Teilhard de Chardin, le célèbre paléontologue devenu, un peu à son corps défendant avec sa théorie du Christ cosmique, de l'anosphère et du point oméga, l'un des lointains inspirateurs du New Age et de la cyberculture. J'ai découvert le savant enthousiaste et le mystique rigoureux qu'il était et je me suis passionné pour le caractère romanesque de ses relations avec l'Église, à laquelle il resta toujours fidèle même quand elle lui interdit de publier ses réflexions théologiques. La vie de Teilhard de Chardin, sans que l'auteur de sa biographie ne prenne clairement position, c'est celle d'un homme qui risqua toute sa vie l'excommunication, mais qui finira peut-être par être reconnu comme un saint. Symbole possible de cette ambiguïté, j'ai découvert que le jésuite avait prononcé ses vœux dans l'ancienne collégiale Saint-Michel de Laval, qu'on détruisit dans les années 60 pour y construire un Suma, le premier supermarché de la ville que j'ai connu, enfant, orange et gigantesque, passé sous l'enseigne Stock. Je me suis lancé ensuite dans la lecture du court essai que Chesterton avait consacré à saint François d'Assise. J'avais déjà lu cet hiver son merveilleux essai sur saint Thomas d'Aquin, mais j'avais judicieusement repoussé la lecture de celui-ci à la période estivale. J'ai appris, entre autres choses, que le saint, initialement baptisé Giovanni, reçut ce nouveau nom, François, de son père, un drapier qui venait de rentrer de France où il avait fait d'excellentes affaires. Et saint François, le français, garda de ce nom l'habitude qu'il avait de composer des poèmes en langue d'oc et de mener, en même temps que celle de saint, la vie d'un troubadour. J'ai sinon retenu du livre l'anecdote presque réaliste de son départ soudain vers l'exil intérieur de la pauvreté, son futur et invincible royaume, après avoir été convaincu de vol par son père. J'étais avec lui entre son père et l'évêque, comme je l'avais été si souvent au collège, pris entre le directeur et mes parents. Je me suis vu moi aussi avec la chemise déchirée par une fuite quelconque, sortir rouge de honte de la cathédrale et devoir, pour survivre à ce sentiment, inventer la fiction prodigieuse d'une élection divine, d'un appel irrépressible du destin. Cette scène, même si j'en retranche volontairement ce que Chesterton ne fait pas bien sûr, l'aspect religieux, c'est encore la plus belle scène de crise d'adolescence que j'ai lue dans un livre. Alors j'ai été déçu, comme tous les Chestertoniens, par la décision cet été de l'évêque de Northampton de ne pas soutenir la cause de la future béatification de l'apologiste anglais. Et j'ai été, comme tous les Chestertoniens, gêné par les trois raisons qu'il en donnait. Certes, l'absence de miracles attribuables était embarrassante, comme les interrogations de l'évêque au sujet de sa spiritualité, mais l'accusation d'antisémitisme était-elle clairement infamante? C'est l'opinion des Chestertoniens en général, quoiqu'il est apparemment facile d'exhiber des preuves écrites du contraire. Mais l'homme énorme n'est pas un autre Céline. On pourrait à la rigueur le comparer à Léon Blois, auteur d'un salut par les Juifs, dont on pourrait sans difficulté extraire des aphorismes antisémites, lesquels reflèteraient pourtant assez mal l'esprit de l'ouvrage. Larbeau, qui le connaissait bien, notait cependant qu'il y avait chez Chesterton, malgré sa bonhomie, quelque chose de l'inquisitif. Que peut-on répondre alors à la fin de non-recevoir de l'évêque de Northampton? Qu'il y a chez Chesterton sans doute une sorte de fureur qui a pu l'entraîner souvent jusqu'au faux pas de la caricature. Ainsi, même dans son portrait du doux saint François d'Assise, des éloges de l'inquisition lui échappent parfois. Mais s'il est vrai que peut-être sa vie spirituelle laissait à désirer, c'est probablement qu'il était trop occupé à écrire et enragé à polémiquer contre les païens innombrables du positivisme triomphant pour avoir le temps de bien prier. Chesterton ne sera pas un saint et ce sera à nous, ses lecteurs, l'insolite communauté des Chestertoniens, a intercédé sans fin pour lui en lui pardonnant tous ses excès comme prix de son génie inégalable et un peu monstrueux.